Vous écoutez On lit pour vous.
Gare au piège à scarabée japonais. Un texte de Béatrice Saint-Cyr Leroux paru le 24 février 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Conçu pour lutter contre l'espèce envahissante, ces dispositifs capturent aussi des insectes bénéfiques. Une étude révèle le coût caché de cette solution pas si inoffensive que ça. Le scarabée japonais, Popilia japonica, est l'un des insectes envahissants les plus redoutés en Amérique du Nord. Introduit accidentellement au début du 20e siècle, il sévit aujourd'hui jusqu'à Vancouver et au-delà des Alpes. Particulièrement polyphage, on le sait friand de plus de 300 espèces de plantes et d'arbres, cet insecte ravage les cultures et les jardins, au point d'avoir inspiré une panoplie de stratégies de lutte. Parmi elles, les pièges combinant phéromones sexuels et composés floraux sont largement utilisés tant par les agriculteurs que par les particuliers. Simple, peu coûteux et sans insecticides, il semble incarner la solution écologique idéale. Mais une récente étude menée par Simone Aubé, alors étudiante dirigée par Jacques Brodeur, écologiste et professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, invite à regarder de plus près ce qui se prend réellement dans ces pièges et leurs effets sur la biodiversité. Des conséquences à différents échelons. Dans cette étude, l'équipe de recherche a quantifié l'abondance et la diversité des pollinisateurs et des coléoptères nécrophages, ceux qui se nourrissent d'organismes morts et qui contribuent au recyclage de la matière organique, mais qui sont encore peu étudiés. Ces insectes ont été capturés par accident dans des pièges installés sur les terres de 20 fermes d'une région agricole du sud du Québec. À partir de 360 échantillons de pièges collectés entre juin et septembre dernier, l'équipe a analysé la variation des prix accessoires en fonction de la saison, de l'abondance des scarabées japonais, de la composition du paysage et des conditions météorologiques. Les résultats montrent que les pollinisateurs étaient capturés accidentellement, surtout en début de saison, notamment dans les fermes qui pratiquent une agriculture très intensive ou qui sont entourées majoritairement de milieux naturels. Ces captures augmentaient aussi lorsque les températures étaient élevées et l'humidité faible. En revanche, les insectes nécrophages étaient capturés en plus grand nombre à la fin août. Ils étaient plus abondants lorsque le temps était frais et pluvieux et dans des fermes où l'agriculture était d'intensité moyenne. D'une part, les pollinisateurs sont attirés par les odeurs florales qui émanent des pièges. D'autre part, les pièges deviennent attirants pour les nécrophages lorsqu'ils sont saturés de cadavres de scarabées en raison de l'odeur de décomposition qui s'en dégage. À titre indicatif, on peut trouver de 5 000 à 6 000 scarabées par semaine dans un seul piège, explique Jacques Brodeur, ex-titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biocontrôle. Repenser la lutte contre les espèces envahissantes. À la lumière de ces résultats, l'équipe de recherche ne plaide pas pour autant en faveur d'un abandon des pièges à phéromones, mais pour une utilisation plus réfléchie et encadrée de ces dispositifs. Les auteurs recommandent notamment d'en éviter la pose en début d'été, lorsque les pollinisateurs sont très actifs, d'autant plus que les scarabées apparaissent plus tard dans la saison. Pour réduire l'attrait des pièges pour les espèces pollinisatrices et essentiellement aux écosystèmes, l'équipe propose aussi d'éviter les pièges de couleur jaune ou blanche et ceux qui contiennent du géraniol, un composé floral dont elle raffole. Les pièges fonctionnent très bien en milieu agricole lorsqu'ils sont installés en grand nombre, en périphérie des cultures contre les vents dominants. Mais ils sont peu recommandés dans les jardins des particuliers, ajoute le chercheur. Plus largement, l'étude rappelle une leçon fondamentale en écologie. Intervenir sur un système complexe entraîne presque toujours des conséquences inattendues. C'était « Gare au piège à scarabée japonais », un texte de Béatrice Saint-Cyr-Leroux paru le 24 février 2026 dans Université de Montréal Nouvelle.
Personnalités de la culture demandent à Montréal de condamner Israël. Un texte de Marco Fortier paru le 17 août 2026 dans Le Devoir. Plus de 700 artistes et travailleurs du milieu culturel québécois, dont Xavier Dolan, Luc Picard et Florence Lompré, appuient une motion de Projet Montréal qui condamne Israël pour sa politique qualifiée d'apartheid et de génocide envers les Palestiniens. Cette motion appelle la Ville de Montréal à suspendre ses relations avec l'État hébreu jusqu'à ce qu'il mette fin à ses violations du droit international. Cette motion de l'ancien parti de Valérie Plante, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, doit être débattue à la prochaine séance du Conseil municipal le lundi 24 août 2026. Les centaines de personnalités et d'organismes culturels montréalais expriment leur plein soutien à la motion de solidarité avec le peuple palestinien déposée par Projet Montréal. Ce groupe, qui se désigne comme le Club anti-apartheid des artistes québécois, appelle les élus montréalais à voter en faveur de cette motion qui réaffirme l'identité de notre ville, solidaire, inclusive et fidèle à ses principes. Le conteur Fred Pellerin, les dramaturges et comédiens Mani Solimon-Loup et Nathalie Doumar, la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, les autrices Laura-Ève Lambert, Martine Delvaux et Elisabeth Lemay, l'autrice, compositrice, interprète Safia Nolin, les humoristes Coralie Laperrière, Virginie Fortin, Léa Streliski et Emna Achour, les actrices Léane Labrèche-Dor, Julie Le Breton, Debbie Lynch-White et Catherine Brunet, les artistes Inès et El Kana Talbi et bien d'autres font partie des signataires de la lettre d'appui à la Palestine. Le député solidaire Haroun Bouazi est un des rares signataires ayant une profession autre qu'artistique. Appel à tuer des Palestiniens. Ce débat déchirant sur la Palestine devait avoir lieu à la dernière séance du Conseil municipal avant la pause d'été en juin 2026, mais a été reporté à la demande de l'administration de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. La motion figure à l'ordre du jour de la séance du Conseil le 24 août 2026. Des propos récents du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ont relancé les accusations de génocide formulées contre Israël pour ses attaques en Palestine. Ce membre influent du gouvernement Netanyahou a publiquement préconisé de tuer de 30 à 40 personnes à Gaza chaque nuit, dans un épisode du balado d'un ancien otage détenu à Gaza, Rom Braslavski. Au moins 73 399 Palestiniens ont été tués, 174 000 autres ont été blessés et la majorité des infrastructures ont été détruites à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023. L'État hébreu riposte à des attentats du Hamas qui ont entraîné la mort de plus de 1 200 Israéliens. 250 autres avaient été pris en otage. Montréal, ville de paix dans le monde. Les signataires rappellent que la ville de Montréal, dont la population vient de partout dans le monde, a une longue tradition de prise de position dans des conflits à l'étranger. En dénonçant les attaques d'Israël contre les Palestiniens, la chef de Projet Montréal, Erika Alneus, a dit s'inspirer de l'ancien maire de Montréal, Jean Doré, qui s'était opposé à l'apartheid en Afrique du Sud. Le leader sud-africain contre l'apartheid, Nelson Mandela, était venu à Montréal peu après sa libération. Il avait souligné la contribution de la ville à la lutte internationale contre cette violence discriminatoire. Le conseil municipal a adopté au fil des ans une série de résolutions portant sur des questions internationales, dont des violations des droits de la personne en Iran, en Haïti et au Rwanda. Les élus montréalais ont aussi condamné l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Les diplomates russes ne sont plus invités aux événements protocolaires municipaux. Projet Montréal et les artistes solidaires envers la Palestine appellent désormais à cesser d'inviter des diplomates israéliens aux événements de la ville. Le conseil municipal de Montréal a aussi adopté en mars dernier une déclaration de soutien aux victimes civiles des attaques d'Israël et des États-Unis au Liban et en Iran. Cette fois, Projet Montréal et les artistes se montrent solidaires envers les victimes civiles du conflit dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, y compris en Israël. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada a fait savoir qu'elle réservait ses commentaires pour le débat qui aura lieu lors de la séance du Conseil du 24 août. De son côté, le Centre pour Israël et les Affaires juives, CIJA, en anglais, mène une campagne soutenue contre l'initiative de Projet Montréal et indique préparer une lettre ouverte pour défendre sa position. C'était 700 personnalités de la culture demandent à Montréal de condamner Israël. Un texte de Marco Fortier, paru le 17 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août. En 1966, dernier concert public des Beatles. Le groupe britannique Les Beatles donne son dernier concert payant devant public au Candlestick Park de San Francisco. Épuisés par les tournées et l'hystérie qui les entoure, les quatre musiciens choisissent de se consacrer désormais exclusivement au travail en studio. Ce concert marque ainsi la fin d'une époque pour le groupe le plus populaire de son temps. Les Beatles continueront cependant à enregistrer certains de leurs albums les plus acclamés dans les années suivantes. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 29 août.
La délicatesse dans un monde de brutes. Une chronique de Nathalie Plat, parue le 3 août 2026 dans Le Devoir. Quand l'avez-vous éprouvée pour la dernière fois? Comment vous est-elle touchée, renversée? Comment habite-t-elle vos propres gestes, la délicatesse? Dérivée de l'italien delicatezza, lui-même prenant racine dans le latin delicatus, qui charme les sens, voluptueux, élégant, le mot « délicatesse » fait son entrée dans la langue française au XVIe siècle, désignant à la fois le tendre, le minutieux, l'élégant, mais aussi quelque chose d'une vulnérabilité, voire d'une mollesse, associée à une trop grande fragilité contenue dans la nature de certaines personnes. « Un peu de douceur dans un monde de brutes » nous proposait le slogan de la compagnie de chocolat Lindt dans les années 1980, avec ses quelques grammes de finesse, comme si la délicatesse devenait déjà, avec tous les autres matériaux qui nous font humains, l'apanage de l'entreprise, affaire surtout de marketing et de stratégie de marque. Dans les grands récits qui structurent nos manières de nous déployer en nous et entre nous, il est, en effet, rare qu'on entende parler d'une délicatesse gratuite, offerte sans brochure, sans récupération quelconque, qu'elle soit politique, prosélyte ou économique. La gratuité du geste me paraît pourtant inhérente au mot lui-même, comme si, pour moi, l'apparence d'une générosité qui me laisserait voir tout de suite le contre-don attendu par le don, l'intérêt évident à peine voilé derrière ce qui se déguise en offrande, retirerait d'office toute la puissance au mot. Non que je sois insensible à ce qui peut faire partie d'une offre professionnelle, d'un soin ou d'un service, mais ce n'est pas de cette délicatesse que nous manquons cruellement, il me semble. C'est bien plus de celle qu'on n'attend pas et qui nous tombe dessus, au détour de ces trajectoires que nous avons souvent l'impression de suivre en solitaire, persuadés que nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes, ce jour où les îlots de sécurité que nous aurons érigés patiemment s'effriteront sous nos yeux impuissants. Le véritable délicat s'exprime ainsi dans des détails, dans des sursauts d'humanité contenus dans des secondes furtives. Les choses inutiles deviennent ainsi plus proches, forcément, du champ sémantique qu'il convie. L'absence de calcul, le spontané, le vraiment donné, sans facture cachée, sans récrimination future, sans carte de fidélité ni accumulation de points, devient alors le langage le plus poétique qui soit. Elle me fait pleurer d'une manière qui me surprend toujours, la délicatesse, quand je l'aperçois, quand je la reçois, quand il m'arrive d'en faire preuve aussi, comme si elle m'humanisait tout autant que celui ou celle à qui elle est donnée, par ses mains nues, qui n'attendront rien en retour. C'est peut-être ce qui donne à la pratique du bénévolat toutes ses vertus, faisant autant de bien à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Elle demeure toutefois en chute libre, cette pratique, le nombre d'heures globales y étant consacré ayant baissé de 18% entre 2018 et 2023 au Canada, selon le dernier sondage de Statistique Canada sur le sujet. Elle est aussi souvent regardée de haut, la délicatesse, par tous ceux qui pensent pouvoir s'en passer, souvent les mêmes qui peuvent se la payer, paradoxalement, dans des hôtels de luxe ou de grands restaurants où rien ne sera laissé au hasard. Elle devient un dû dans ce contexte, ce qui, il me semble, lui fait perdre tout de son sens premier. Si elle s'achète parfois, elle me semble concerner surtout les objets en voie de disparition, les bonbons, parce que les fleurs c'est périssable, mais aussi toutes ces petites choses jolies qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui racontent une forme de résistance dans un monde en déliquescence. Pour moi, elle est faite de papier, de jolis calepins, de cartes postales, de papier à lettres soigneusement choisi et habillé d'une écriture manuscrite qui, à chaque fois, me fait voir un peu de l'âme de celui ou celle qui rédige. Elle est faite de tous ces journaux intimes et autres bloc-notes qui pourront peut-être s'accumuler sur le bureau de la chambre, prendre une poussière qui, lorsque je la dégagerai, fera pour moi un balai de volutes juste sous le puits de lumière, dans un après-midi qui, soudain, sera devenu habitable. La délicatesse, je la trouve aussi dans les transports en commun, quand je saisis des moments de suspension dans les pensées défilantes sur les visages des gens. Elle se trouve dans la rue, quand les gens se sourient, mais elle prend aussi des tournures plus senties, quand elle devient de la petite bonté, ces gestes qui aident, qui pallient ses quelques sous manquants tendus pour régler la facture d'un étranger mal pris à l'épicerie, des commentaires gratuits sur la beauté d'un chapeau ou d'un t-shirt, des sacs portés jusqu'à la voiture. Je la trouve souvent chez les libraires, ces personnes qui sont assurément parmi mes personnes préférées au monde, dont j'admire l'étrange et magnifique passion au plus près de l'objet livre. Oui, oui, bien sûr, il y a des ventes d'impliqués dans nos échanges, pas toujours et rarement d'une manière qui scelle la relation. On peut parler des heures à notre libraire, et ce n'est pas parce qu'on lui achète peut-être un livre à la fin qu'il y a entre nous un lien. Non, et c'est ce que j'aime chez mes libraires indépendants. C'est la tendance qu'ils ont à créer avec nous un monde de sens qui ressemble à de l'amitié, qui en devient parfois, qui recoupe même un peu quelque chose de mon métier, parce qu'il inclut une prise en soin du monde intérieur de l'autre. Qui nous connaît mieux que notre libraire parfois? Notre coiffeuse peut-être? Notre barman? Tout dépendant de nos lieux de réconfort. Notre bibliothécaire? Oui, peut-être bien elle, qui connaît nos habitudes de retard de retour des livres, mais qui est heureuse quand même de nous dire que notre réservation est enfin arrivée. J'ai envie de jouer le jeu un peu différemment avec vous, vous voulez bien? Parce que la délicatesse, si elle ne devient ni un refuge pour privilégier, ni un bunker de déni, est peut-être bien le dernier bastion d'une révolution qui ne nous épuisera pas, un peu comme ce petit balai de poussière qui rendrait nos après-midi habitables et qui, du même coup, permettrait de garder actif en nous l'espoir en l'humain, en sa capacité à offrir, sans intérêt, un peu de douceur dans ce monde de brutes. C'était « La délicatesse dans un monde de brutes », une chronique de Nathalie Plat, parue le 3 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août. En 1983, Guillaume Bluford, premier astronaute afro-américain. L'astronaute américain Guillaume Bluford devient le premier afro-américain à voyager dans l'espace à bord de la navette spatiale Challenger. Ce vol marque également le premier lancement nocturne d'une navette spatiale américaine. Bluford effectuera par la suite 3 autres missions spatiales au cours de sa carrière. Cet exploit représente une avancée symbolique importante dans l'histoire du programme spatial américain. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 30 août.
La place du Québec au sein des nations. Un texte de Jocelyn Coulon, publié dans Le Devoir du 25 juillet 2026. En sous-titre, l'instabilité chronique de notre action internationale a de vraies conséquences. Les relations internationales du Québec participent de son identité depuis plus d'un siècle et demi. La première représentation du Québec à l'étranger a été ouverte à Paris en 1882, suivi par un bureau à Londres en 1911 et à New York en 1940. La Révolution tranquille a donné un coup d'accélérateur à l'expansion internationale du Québec. Les gouvernements libéraux, comme péquistes et caquistes, ont poursuivi l'entreprise, multipliant le nombre de délégations et de bureaux au fur et à mesure de l'ouverture de la société québécoise au reste du monde. Le Québec a même adopté une doctrine pour baliser son action internationale dans le cadre du régime fédéral. En 1965, Paul Gérin-Lajoie, alors vice-premier ministre, en a exposé l'élément essentiel à l'occasion d'un discours devant le corps consulaire à Montréal. Cet élément a été repris dans « Politique internationale du Québec », le document détaillant la politique du gouvernement caquiste publié en juin. Citation. « Ce qui est de notre compétence chez nous est de notre compétence partout. » Fin de citation. La doctrine Gérin-Lajoie a permis au Québec de signer des centaines d'ententes sur de nombreux sujets, avec des dizaines de pays, d'accéder à la francophonie comme membre de plein droit et d'obtenir une place au sein de la représentation du Canada à l'UNESCO. Si le Québec s'est donné des structures, ministères, délégations, instituts de la diplomatie, pour animer ses relations internationales, il y consacre peu d'argent et de ressources humaines. De plus, sa politique est parfois incohérente et varie au gré des changements de gouvernement, écrit Stéphane Paquin, professeur à l'École nationale d'administration publique et spécialiste des relations internationales du Québec. Dans un texte publié récemment dans Le Devoir, il déplore l'instabilité chronique de l'action internationale québécoise et estime que celle-ci a de vraies conséquences. Citation. Au fil des alternances politiques, des priorités gouvernementales changeantes et des arbitrages budgétaires à court terme, les orientations fluctuent, les structures sont modifiées et les capacités institutionnelles sont souvent affaiblies, écrit-il. Fin de citation. Un bon exemple de ce désordre est le sort réservé aux représentations du Québec à l'étranger. Au cours des 40 dernières années, 23 missions ont été fermées pour différentes raisons, principalement économiques. Certaines ont été réouvertes. Ce va-et-vient est le symptôme de cette incohérence dans le développement et la mise en œuvre d'une politique internationale dont parle M. Paquin. Ayant en tête la stabilisation du processus, le professeur formule 2 propositions. En premier lieu, il invite les politiques à adopter une forme de « serment d'Hippocrate », entre guillemets, destiné, guillemets, à ne pas nuire. Fin des guillemets. Citation. Éviter les décisions qui fragilisent les acquis institutionnels ou qui réduisent la capacité du Québec à se projeter à l'international. Fin de citation. Et pour impliquer davantage les parlementaires dans la définition et la gestion des relations internationales, il préconise, en deuxième lieu, la création d'une commission parlementaire permanente sur le sujet, comme il en existe à la Chambre des communes et au Sénat. Cette instance permettrait d'avoir une vue d'ensemble des relations internationales du Québec en auditionnant non seulement les fonctionnaires des ministères concernés, mais aussi le personnel des sociétés d'État, des centres et des instituts, ainsi que des experts. Se faire une place au sein des nations nécessite de couvrir toute la planète là où, évidemment, le Québec y trouverait son intérêt. Aujourd'hui, le Québec dispose de 34 représentations dans 19 pays, essentiellement concentrées en Europe et aux États-Unis. Le gouvernement caquiste, dans sa nouvelle politique internationale, mais aussi les partis d'opposition, reconnaissent qu'il faut faire mieux, particulièrement en Afrique. D'après les prévisions de l'ONU, plus de 25 % de la population mondiale sera africaine en 2050. En outre, selon le rapport « La langue française dans le monde », publié en 2026, publié par l'Organisation internationale de la francophonie, 90 % des francophones vivront en Afrique. Enfin, selon la Banque africaine de développement, en 2024, 11 des 20 pays connaissant la croissance économique la plus forte étaient situés en Afrique. Le Québec est déjà présent au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant regarder vers l'est et le sud du continent. Pourquoi ne pas ouvrir au moins une représentation au Kenya, en Afrique du Sud ou même en Éthiopie, l'une des économies les plus dynamiques du continent? Tous les gouvernements ont voulu porter la voix du Québec sur la scène internationale avec plus ou moins de bonheur. Les relations internationales ont toujours été l'enfant pauvre des préoccupations du moment. Il faut changer cette dynamique, d'autant plus que le Québec est lui aussi frappé par les turbulences mondiales. Fin de ce texte signé Jocelyn Coulon, titré « La place du Québec au sein des nations », publié en éditorial dans Le Devoir du 25 juillet 2026.